Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Marie Mélinon. Bonjour.
Bonjour.
Marie, vous êtes habitante et engagée au sein de l'association Le Réseau des Tempêtes. À votre côté, Pablo Servigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même cofondateur de cette association, donc du Réseau des Tempêtes. Vous êtes auteur, conférencier autour de la transition écologique, l'agroécologie, la collapsologie et résilience collective. Et vous êtes tous deux ici pour nous parler d'une réunion qui aura lieu donc le dimanche 6 septembre de 10 à 13 heures à la salle communautaire de l'ESCDD et qui s'appelle « Récolter la tempête ». Tous deux, vous êtes engagés dans cette association. Peut-on parler d'ailleurs qui est née en 2024 par vous en tant que cofondateur, hein, Pablo?
Oui, c'est ça. On avait, en fait, on bosse avec plusieurs des universitaires, des humanitaires aussi, depuis 4-5 ans, sur un sujet qui est incroyable, c'est l'entraide en temps de crise, en fait. Plein de gens s'entraident spontanément avant l'arrivée des secours. Il se passe plein de choses et la plupart des gens sauvés le sont avant l'arrivée des secours, les premières minutes, les premières heures. Et du coup, on a vu que c'était un angle mort dans la gestion de crise. En France, particulièrement, toute la gestion de crise est très institutionnelle. Il y a les pompiers, la police, la Croix-Rouge, le ministère de l'Intérieur, etc., etc., avec toutes des chaînes de commandement. Et en fait, cette entraide spontanée, elle est quasiment jamais prise en compte, elle est invisibilisée. Et nous, ce qu'on avait à cœur avec cette association, c'est de donner une voix à ces mouvements émergents et convergents et de s'inspirer de tout ce que nous offre la recherche. Tous les pays, il y a pas mal de pays dans le monde qui font des choses incroyables et on voulait justement stimuler, encapaciter les gens à agir en gestion de crise. Voilà l'étincelle de base de l'association.
Voilà, le réseau est international, je crois bien. Il y a une vitrine dans de nombreux pays de la planète. Qu'est-ce qui les relie entre elles, toutes ces structures?
Alors, de nombreux pays, c'est exagéré, mais pour l'instant, c'est vrai, on est né en France, mais on a des relais, surtout des chercheurs, en fait, qui nous montrent que, tantôt en Australie, avec les méga-feux, des méga-inondations, il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans la coordination avec l'armée, avec les secours, et les habitants ont vraiment une vraie puissance, une vraie légitimité. Au Japon, il y a des choses incroyables, en Norvège, dans les pays nordiques, en Suisse, etc. Et donc, on s'inspire de tous les bons et les mauvais exemples pour essayer d'améliorer les choses ici.
Et puis, il y a donc cet été caniculaire, lié à ces incendies. J'imagine que vous avez pu mettre en évidence justement le sujet qui sera abordé dans cette réunion publique. Marie.
Oui, effectivement, on a vécu ça en première personne. Nous, en tout cas, les personnes engagées dans le réseau des tempêtes qui vivent à Die. Et on a pu observer déjà ce qui se fait, ce qui naturellement, l'entraide qui s'est développée entre les collectifs existants, les associations, les habitants qui sont pas forcément affiliés à aucune association. Et nous, pour nous, c'était déjà une première façon de s'impliquer, c'était de comprendre ce qui se fait, comprendre mieux le système d'entraide naturel à Die, pour pouvoir ensuite nous rendre compte de où est-ce qu'on pourrait, nous, apporter quelque chose, aider quelque chose, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose en soutien aux habitants et aux habitantes.
Cet été, avec l'incendie, beaucoup de personnes se sont portées à vouloir entraider ou aider aussi les services de secours, mais parfois ils se retrouvaient avec un non-retour de leurs propositions. Est-ce que, de la part de la préfecture notamment, est-ce qu'il y a aussi peut-être cette idée de l'organisation structurelle des secours, des forces régaliennes aussi, face à peut-être un volontariat, mais sans forcément organiser, voilà. Est-ce que c'est aussi ça que vous êtes en recherche, c'est d'essayer de structurer aussi cette entraide?
Oui, c'est un des objectifs. Peut-être, Marie, tu peux. Toi, tu as bien vécu la crise, au cœur de la crise, à Die. Mm-hmm. Et après, je pourrais enchaîner.
Ok, on fait ça. En réalité, il y a donc quelque chose qui est sorti naturellement de l'organisation des habitants. Et effectivement, il y a eu aussi beaucoup d'habitants qui auraient bien aimé faire quelque chose et qui n'ont pas pu. Notamment parce que je pense que là, on parlait d'un incendie. Un incendie, c'est quand même quelque chose de très technique. On a besoin de la protection civile qui va faire son travail, qui est équipée. Et donc, en tant qu'habitant, on ne peut pas forcément aider sur tout. Et notamment, on a eu quand même plus de, si je me souviens bien, plus de 500, 600 corps de sapeurs-pompiers militaires qui sont venus. Et donc, sur ces aspects-là, en tant qu'habitant, on pouvait pas vraiment agir. Par contre, sur les aspects plus logistiques, que ce soit la nourriture, l'hébergement, que ce soit des sapeurs-pompiers intervenants en général ou potentiellement des personnes évacuées, là, il y a eu beaucoup de d'entraide qui s'est organisée entre habitants. Il a fallu effectivement qu'il y ait une certaine communication entre les habitants et les autorités. Et possiblement, il y a eu des délais, des couacs peut-être avec la préfecture qui doit maintenir un discours officiel, etc. Et après, il y a ce qui se passe sur le terrain qui se passe en parallèle. Et nous, au Réseau des Tempêtes, on a cette vocation d'être un petit peu le lien entre les deux, que l'État fasse plus confiance aux collectifs citoyens qui s'organisent et que les collectifs citoyens comprennent que c'est bien aussi de faire le lien avec les autorités pour qu'ils soient plus considérés et que tout le monde soit pris en compte dans son action, que ce soit la protection civile avec les moyens techniques et les habitants avec des moyens plus peut-être pratico-pratiques, logistiques sur place.
Cet épisode, Pablo Servigne, de cet été, dans quelle catégorie vous la mettriez par rapport à vos spécialités thématiques ?
Alors, c'était très intéressant cet été, ce qui s'est passé autant à Die qu'en Gironde, on l'a vu dans le Var, à Marseille, il y a eu à Fontainebleau, il y avait plein d'épisodes qui sont finalement assez typiques. Et moi, j'ai découvert ce sujet il y a 4 ans, et en fait, j'ai découvert que la recherche, depuis 70 ans, depuis l'après-guerre, elle est d'accord sur ce sujet. Et tous les chercheurs disent, en fait, il se passe énormément de choses. Il y a plusieurs mouvements, en fait. Il y a d'abord les sinistrés eux-mêmes qui agissent. C'est des mouvements qu'on appelle émergents. Et donc, ils se logent, ils se soignent, ils s'aident entre eux. Ils font office de secours, mais ils réparent aussi les traumas, mais ils réparent l'arrivée d'eau. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Ils aident aussi les secours. Et aussi, il y a un mouvement qu'on appelle convergence, c'est-à-dire qu'autour du lieu du sinistre, il y a plein de gens qui vont converger pour aller aider. Et ça, si c'est invisibilisé, si c'est pas prévu dans la doctrine de secours, ben ça peut gêner. Surtout que quand c'est pas préparé, les gens arrivent avec de l'impro. Et ça, il faut pas le nier, la crise amène un certain désordre et de l'improvisation, aussi bien chez les gens que dans les secours aussi, il y a de l'impro. Et donc, ces mouvements-là, s'ils ne sont pas prévus, eh ben, ça crée du bazar. Et donc, ça justifie le fait que les autorités l'invisibilisent encore plus et l'ignorent. Et en fait, les scientifiques, là, depuis 70 ans, ils montrent que quand c'est pris en compte, c'est préparé à l'avance, ça fait un bien fou. Il y a beaucoup moins de morts, beaucoup moins de blessés. Tout est plus facile, la reconstruction est plus facile, etc. Donc finalement, on a deux leçons qu'on a tirées de ces recherches. Et là, on le voit bien avec le cas de Die ou en Gironde, quand la préfète a demandé aux agriculteurs qui amenaient de l'eau. Non, il faut s'imaginer, ils amènent de l'eau en urgence, les pompiers sont ravis, ils disent heureusement qu'ils sont là. Et la préfète, elle dit non, il ne faut pas aller voir les pompiers comme ça, il faut remplir un formulaire d'abord. Le truc typiquement français absurde. Et donc ça gêne. Donc finalement, on a deux résultats majeurs. Le premier, c'est que quand il y a une crise et du chaos, c'est pas le bazar qui va prédominer, c'est qu'il va émerger un type d'organisation, d'auto-organisation, qui est très puissant, qui est très multiple et qui fait beaucoup de bien. Ça, c'est partout, dans tous les théâtres d'opérations, on va dire, que ce soit les catastrophes naturelles, les conflits armés, les attaques terroristes, partout. Et leçon à tirer, c'est que la qualité des liens sociaux avant la crise, elle est fondamentale. Et la, quand j'entends, quand je dis qualité des liens sociaux, c'est entre nous, entre voisins. Plus on se connaît, plus on a appris à pratiquer voilà, les réunions, les conflits et tout ça, plus on va, ça va être fluide quand il y aura une crise, n'importe quelle crise. Et la qualité aussi, on l'a bien vu avec ce que tu as dit, Marie, la confiance entre les habitants et les autorités. Et la confiance, elle est aussi verticale, elle n'est pas que horizontale entre amis et famille et voisins. Et ça, ça se travaille avant. Si on connaît déjà les pompiers, si on connaît leurs procédures, si eux, ils ont déjà repéré qui va être plutôt leader, qui, où sont les points clés, où sont les personnes clés, mais ça facilite grandement. Donc, vous voyez bien que naturellement, là, notre tâche pour les prochaines crises, parce qu'on va débriefer de celle-là et on va s'améliorer pour les suivantes, ça va être de se préparer par le jeu, par la résolution de conflits, par les réunions, par s'apprivoiser entre nous et avec les institutions.
Alors, je viens sur le réseau des tempêtes, cette association. Que propose-t-elle concrètement, justement, par rapport aux habitants, à un pays ou à une communauté ou une collectivité ?
Pour l'instant, ce qu'on propose, c'est déjà d'observer ce qui se passe naturellement et nous de faire ces apprentissages et ensuite de venir au contact des habitants et des habitantes, de leur proposer ces temps de débrief, de réflexion sur ce qui s'est passé pour identifier les besoins pour mieux se préparer pour les prochaines crises. Ces temps pour créer du lien, renforcer le lien social qui est déjà préexistant, comme vient de dire Pablo, que ce soit le lien horizontal ou le lien vertical. Donc on va travailler sur des outils comme ça pour nous relier. Et on va aussi s'adapter en fonction des territoires. Là, on va commencer nos expérimentations la semaine prochaine à Die, justement, et la réunion dont on parle va faire partie de cette expérimentation pour se rendre compte de ce dont on a besoin à Die et de ce dont les habitants et les habitantes ont besoin à Die. Et puis, on va faire ce travail sur d'autres territoires. Et ce ne sera pas forcément les mêmes propositions. On a quand même vocation, à la suite de ces expérimentations, à proposer une boîte à outils qui sera à disposition des habitants et des habitantes, où ils pourront piocher différents outils qu'ils pourront utiliser pour s'auto-organiser. Notre mission, c'est quand même d'empouvoirer les habitants et les habitantes pour qu'ils puissent s'organiser, créer leur groupe local. Et nous, on n'est pas là pour être là tout le temps avec eux. On est là potentiellement pour mieux comprendre les besoins locaux, pour améliorer notre boîte à outils. On peut être appelé ponctuellement à accompagner. Mais ce qu'on veut, c'est surtout que les habitants et les habitantes soient autonomes.
Alors, vous avez certainement une expérience hein, dans le domaine, je parle du réseau des tempêtes. Quel public vient à ces réunions ?
Alors, pour l'instant, c'est nouveau. On s'ouvre, on est en train de s'ouvrir sur le grand public, mais on a vocation à parler avec tout le monde. Et on veut réunir le maximum de personnes possibles, des profils les plus différents possibles, puisqu'on doit faire ensemble. Quand on est face à un feu, on est tous menacés. Alors, on est plus ou moins proches, on a plus ou moins des moyens, mais l'idée, c'est quand même qu'on s'entraide. Donc, on a envie de parler avec tout le monde.
Ouais, juste rajouter, en fait, il faut rester humble aussi, parce que déjà, c'est un peu pionnier hein, ce qu'on fait. On s'inspire d'autres pays. Et idéalement, tout le boulot, il est à faire entre les crises. Donc, quand il n'y a plus de catastrophe, là, on se fait des réunions pour voir ce qui s'est passé, on prépare, on peut faire des jeux, des serious games, de s'entraîner aux crises, s'entraîner à apprivoiser nos peurs. Il y a énormément de choses à faire ensemble. Mais on pourrait se dire que d'abord, on va toucher le grand public, même ceux qui n'ont pas vécu de crise. Mais pour l'instant, au démarrage, on se concentre sur les habitants qui ont vécu un sinistre, qui ont une vraie puissance, qui ont aussi des émotions. Il y a une vraie colère, un sentiment d'impuissance, l'envie, la joie d'avoir participé, a vécu quelque chose d'incroyable. Toute cette puissance-là, elle est à canaliser, à utiliser pour stimuler, renforcer les collectifs. En fait, nous, on n'est pas un collectif de plus. On est là juste pour outiller les gens, et c'est les gens qui vont le faire, et c'est les collectifs sur place qui vont le faire.
Donc, vous proposez une méthodologie hein, d'organisation. Est-ce qu'il y a forcément une hiérarchie dans toute organisation, ou ça ne peut être qu'horizontale ?
Ah oui, grosse question là. Alors ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'il va falloir faire avec les petites hiérarchies. J'appelle ça la micropolitique des groupes. Il y a toujours des gens qui prennent plus la parole. Il y a les leaderships spontanés qui prennent le pouvoir. Il y en a d'autres, des timides, qui parlent moins, etc. Et donc, une grosse partie du travail, ça va être de la... Comment ils disent, les Américains disent community organizing, de l'organisation communautaire, on va dire. C'est des techniques aussi d'intelligence collective, de pratique, pour donner la parole à tout le monde, voilà, qui est le plus horizontal possible. Mais quand même, il faut se rendre compte qu'il y a des... on appelle ça des architectures invisibles, ça veut dire qu'il y a des pouvoirs qui sont là, etc. Et il faut les visibiliser, il faut en parler. Ça fait partie des conflits, ça fait partie aussi des dynamiques qui émergent. Et en fait, ça se passe entre habitants. Mais ça se passe aussi, les réunions, il va falloir le faire avec les élus, déjà fraîchement élus, a dit, qui ont galéré dès leur premier mandat, le début du mandat, ils ont été dans le feu de l'action. Donc comment ça s'est passé pour eux? Parce qu'eux aussi sont des habitants, eux aussi sont des êtres humains. Donc il y a tout ça à démêler. Ça va pas être facile, mais moi je trouve que l'idée principale, c'est que... Et il y aura du conflit, hein, et c'est OK, on est là pour traverser le conflit. Mais si on s'entend pas, on va galérer. Donc, il y a quand même cette idée que, en attendant la prochaine crise, on va travailler à pacifier les choses et à bien s'entendre. Parce que moins on s'entend, plus on va galérer. Ouais.
Cette organisation, donc, qui prendra le temps de se structurer, à quel moment pourrait-elle intervenir ou s'articuler avec les services publics ?
Alors, nous, on est dans l'échange et la communication. Nos premières expérimentations qu'on va faire, qu'on va mener la semaine prochaine à Die, ça va être d'abord dirigé aux habitants et aux habitantes. Mais effectivement, les autorités, les élus sont des habitants et des habitantes. Donc, ils sont les bienvenus, évidemment, dans notre atelier de dimanche 6 septembre.
En tant qu'habitants. Et après, on ira les voir en tant qu'institution dans un deuxième temps.
Ouais. Exactement. Et puis les pompiers. C'est ça. Et donc, on a prévu d'aller se diriger vers eux, pouvoir partager, par exemple, le travail de recherche auquel on a participé, partager les retours qu'on a eus des habitants, dans l'idée de pouvoir faire en sorte que tout le monde se parle, en réalité. C'est en ça qu'on a ce rôle aussi de liant. Entre deux blocs qui pourraient peut-être penser qu'ils sont mieux sans les uns et les autres. Donc, on n'a pas vocation non plus à remplacer la protection civile ou tout ça. Nous, on travaille sur l'avant, sur l'après, et sur la fluidification, la communication, les outils, pour qu'ensemble, on puisse faire.
Un exemple très concret qu'on a vu dans notre rapport de recherche et qui arrive dans beaucoup de cas, c'est le manque de reconnaissance des autorités vis-à-vis des habitants. En fait, il y a plein de gens qui se bougent, qui se démènent, qui transpirent, qui font des nuits blanches, qui aident tout le monde. Et ils sont fatigués au bout d'une semaine, deux semaines, ils sont épuisés. Et en fait, après, quand il y a les cérémonies, par exemple, la mairie qui distribue des médailles ou qui a un article dans la presse, et ils ne sont jamais cités, ils n'ont pas de médaille. Et on les a interviewés, ces gens-là, avec nos recherches dans plusieurs pays. Et en fait, ils ne font pas ça pour les médailles ni pour l'argent. Mais qu'ils ne soient pas cités, ça les détruit en fait. Le manque de reconnaissance est très néfaste pour leur sentiment de communauté en fait, de faire un tout, d'être ensemble, de faire partie du Diwa, de la catastrophe. Et du coup, c'est toxique pour les fois d'après. C'est-à-dire qu'ils vont moins participer peut-être après. Ils vont se dire « Ah non, mais moi la mairie, voilà, moi les catastrophes, j'ai donné, etc. » Et donc ça, c'est à soigner. Comment est-ce qu'on reconnaît ? Eh ben, on se met autour d'une table et on dit « toi, tu as vécu ça, moi, j'ai vécu ça », en échange. Tu vois, il y a plein de choses à faire, vraiment, concrètement.
Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de voir que la mairie a organisé un temps de remerciement des citoyens. Ce sera dimanche soir, cette semaine, là, le 30 août. Donc, c'est déjà un pas vers ce que était en train de décrire Pablo, de reconnaissance. Moi, j'irai aussi avec ma casquette du réseau des tempêtes pour me rendre compte de ce que c'est, comment c'est fait, etc. Et d'apprécier qu'ils prennent le temps. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que ils le font. On va voir comment réagissent aussi les habitants et les habitantes face à ce moment de remerciement, de reconnaissance.
Cette réunion du 6 septembre, un dimanche, donc de 10 à 13 heures, est-ce que ça constitue donc une présentation de cette méthode d'organisation? Qu'est-ce qu'il en résultera lors de cette première réunion? Est-ce que s'établira ensuite un calendrier, peut-être, pour prolonger par d'autres réunions ou des stages, peu importe?
Alors... Le contenu de la réunion, enfin, c'est plutôt un atelier pour nous, puisque ça va être participatif, pas du tout descendant. C'est pas un modèle avec des intervenants qui vont exposer quoi que ce soit. On sera sur de l'échange, de la création de liens. Donc, on va avoir trois... Ça va s'articuler en trois parties. La première, où on va plutôt échanger sur nos vécus. Et ça, c'est une première couche de création de liens, parce qu'on va sûrement se rendre compte qu'on partage... des vécus avec certains et peut-être pas avec d'autres, mais on va se rendre compte qu'il y a peut-être des liens, des expériences communes. Ensuite, on va prendre un temps pour reconnaître ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché, pour les identifier. Ça, c'est un premier pas vers l'analyse. Comme on nommait ça tout à l'heure, un débrief, entre guillemets. Ça va pouvoir déjà commencer à nous aider à identifier des thématiques. Et ensuite, on a envie de passer à l'étape d'imaginer un après, une structure, une organisation, un groupe. Ça sera ce qui sortira des conversations, mais en quelque chose qui va se matérialiser potentiellement dans ces conversations sur l'avenir de notre organisation en local, pour les prochaines crises. Et donc, ce sera potentiellement suivi d'autres réunions de ce groupe qui se formera, on l'espère. Mais en réalité, on est aussi... je reviens sur ce que disait Pablo tout à l'heure. On reste humble. Si les habitants et les habitantes n'ont pas envie de former un groupe, eh ben, y a pas de problème. C'est un apprentissage pour nous aussi. En tout cas, on va faire ces propositions pour se poser ces questions-là. Et on verra ce qui en ressort dans l'idée de pouvoir être chaque fois un petit peu plus prêt pour les prochaines crises.
Pablo, vous voulez intervenir ?
Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une grande lacune aujourd'hui. C'est que les autorités, en fait, après une crise, elles font ce qu'elles appellent des rétextes, des retours d'expérience. Donc, entre eux, ils se réunissent, ils voient ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ils essayent d'améliorer leur doctrine de gestion de crise. Et en fait, les habitants sont toujours oubliés. Il y a une richesse incroyable parmi les habitants. Ils ont de l'expérience, ils connaissent les liens, ils connaissent les lieux, ils ont vécu des choses folles. Et moi, je trouve qu'on gagnerait à inventer, à mettre en place des rétextes participatifs ou populaires, appelons-les comme on veut. Alors, il y en a déjà eu un peu et c'est en train de se mettre en place. Il y a plusieurs méthodologies, tout ça. Mais souvent, il y a une phase émotionnelle parce que les gens ont beaucoup, en gros, sur la patate ou alors, au contraire, ils ont des larmes de joie parce qu'ils ont vécu un truc incroyable, souvent avec un vocabulaire religieux d'ailleurs. Ah, c'était un moment, mais le plus fou de ma vie, c'était voilà, lumineux, il y a l'avant et l'après, c'est assez incroyable. Et justement, ce qui est génial, c'est que ces moments émotionnels, ces moments sont des moments de partage que les scientifiques appellent d'identité partagée. Quand des personnes vivent une crise, il y a un nous qui se fabrique, on a vécu, on y était. Nous, on sait. Et ce nous-là, il est très puissant. Et c'est ça qui crée du lien social. En fait, la crise crée du lien social. Et on peut complètement éviter qu'elle s'effondre après et qu'on revienne à nos quotidiens avec nos petits conflits, etc. La vie d'avant, on peut essayer de la maintenir. Donc, ça va être ça, l'enjeu. Comment est-ce que l'identité partagée qui est née des incendies à 10 puisse perdurer? Et pour ça, puisque les incendies ne sont plus là, donc la raison d'être même des liens sociaux qui se sont créés n'est plus là, il va falloir inventer quelque chose qui réunit. Qu'est-ce qui réunit? Eh bien, le fait qu'on veut... des horizons, des valeurs, le fait qu'on puisse s'entraîner aussi, donc jouer aux catastrophes. On va faire des jeux sérieux, tiens, on va jouer à ça, on va jouer à ci, avec ou pas, sans les pompiers, etc. Peut-être ça sera des inondations, peut-être ça sera, que sais-je, d'autres types de catastrophes, mais aussi des projets communs. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec les incendies. Et c'est souvent Enfin, s'il n'y a pas de sens à un collectif, il peut vite s'effilocher. Donc là, il y a un travail de faire durer ça. Et comme le disait Marie aussi, par les connaissances qu'on a rassemblées pendant la crise, on peut faire remonter aux pompiers, aux autorités, etc. Donc l'idée, c'est maintenant de faire durer ça. Pour la...
Voilà, vous parliez tout à l'heure de hiérarchie invisible, en quelque sorte, par rapport à certaines personnalités. Donc, ce sont sur ces personnes-là, peut-être, qu'il faudra compter pour lier, justement, ce mouvement.
Tout à fait. Vous soulignez un point important, c'est que, en fait, ce qu'ont remarqué les chercheurs, c'est que quand il y a... Une crise amène une sorte de situation de chaos où les hiérarchies sont complètement chamboulées. Parfois, il y a peut-être des sapeurs-pompiers qui sont totalement en frise, complètement inhibés parce qu'ils ont trop peur. C'est arrivé au Bataclan, par exemple. Parfois, c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui prennent le dessus et le leadership et commencent à faire des garrots, ils commencent à aller au contact, je sais pas moi, du feu ou des terroristes, peu importe. Et en fait, c'est surprenant. Et il y a un leadership spontané, naturel, qui émerge de gens qui ne s'y attendaient pas. Et donc, on considère qu'il y a, je sais pas, je dis au hasard, peut-être 5% des gens qui sont potentiellement des leaders en temps de crise, mais qui ne le savent pas encore. Donc effectivement, entre les crises, on a un petit jeu, enfin un devoir peut-être d'identifier par le jeu ces gens-là et qui se forment, qui s'auto-forment, qui se fassent du lien entre eux. Et là, ça créera un tissu bien solide, résilient, résistant, qui sera génial pour les crises. Et c'est exactement ça qu'on appelle le réseau des tempêtes. C'est ce tissu social-là.
Ces jeux ne reflètent pas forcément le contexte d'une réalité catastrophique, par exemple. Est-ce que la personne se désignera quand même malgré tout dans une situation, même si elle est virtuelle ou artificielle?
Ça dépend des cas. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont vite en PLS quand il y a une odeur de fumée. D'autres, ça va être quand quelqu'un crie en face. Y a des gens, ils perdent leur capacité, leurs moyens. Ouais. Et d'autres, c'est le contraire. Le stress les active. Donc ça, typiquement, suivant les jeux, on verra des personnalités émerger, on verra des amitiés émerger, on verra du conflit, etc. etc. Donc je pense que c'est la diversité qui fera la beauté de la chose. Mais ça, on verra sur le temps long. Et ça sera pas seulement à nous d'amener des idées, ça sera aux habitants d'amener de l'énergie aussi et des idées.
Comme vous le disiez tout à l'heure, avec les petits conflits locaux, il faut compter sur, au-delà du clivage politique, j'imagine. Est-ce que cela, je ne sais pas si vous avez des expériences à relater dans le domaine, mais est-ce que ça peut se vérifier et peut-être de pouvoir surmonter ce genre de divergence?
Avec les politiques?
Oui.
Ah oui, dans certains pays, enfin, il y a des cas un peu partout. Donc nous, on a par exemple étudié... au Tchad, il y a eu des inondations en 2022 et l'État, était plutôt opposé aux habitants qui, eux, s'entraidaient et faisaient une digue pour empêcher les inondations. Et en fait, l'État, ils ont pas agi. Quand il y a eu de l'argent, ils l'ont détourné et puis ils ont empêché les gens de s'entraider. Donc c'était plutôt un État défiant. Après, il y a des cas en Australie où l'État n'est même pas arrivé. La catastrophe était tellement grande que... Les secours, en arrivant en retard, ils ont demandé de l'aide à la population. Donc forcément, les gens s'étaient déjà organisés, structurés et tout. Et quand il y a eu une catastrophe 2 ans après, ça s'est super bien articulé. Donc il y a toujours plein de conflits. Alors surtout en France, parce qu'on est un pays très vertical, verticalisant. Moi, je dirais même paternaliste. Il y a quelque chose de l'ordre de l'infantilisation des gens. Ouais, mais les gens... ils savent pas, ils sont passifs, ils font des conneries, ils sont dangereux, il faut amener la police, nanana. Donc c'est tout des idées reçues, des croyances limitantes qui sont fausses en fait, qui sont révélées fausses. C'est pour ça que je dis depuis 70 ans, il faut lutter contre ces croyances. En fait, les gens sont plutôt actifs, ils s'auto-organisent bien, il y a très très peu de malveillance et d'actes antisociaux, etc. etc. Donc il faut lutter contre une manière de penser, des mythologies. Et forcément, ces mythologies toxiques de la loi de la jungle, de les gens sont nuls, tout ça, ça crée des conflits avec l'autorité. Le manque de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. Mais je ne sais pas, Marie, est-ce qu'il y a eu des conflits à 10 cet été avec les autorités? Moi, j'ai entendu qu'ils avaient quand même assez bien agi.
Oui, moi, je n'ai pas eu de retour de conflits entre élus, quel que soit leur bord. Au contraire, je les ai vus assez présents dans leur rôle respectif. Les seuls couacs que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler, ça va être plutôt avec la préfecture qui a quand même un rôle différent et qui voulait centraliser la communication sur notamment les points feux pour donner les dernières informations officielles. Et donc là, donc c'est plus en termes de hiérarchie qu'en termes de bord politique, en réalité, où on a pu voir des différences. Après ça, j'ai vu vraiment autant les élus de l'opposition ici à Die que la nouvelle municipalité être sur le terrain.
À la Roya aussi, en France, donc, dans le Mercantour, il y a eu la tempête Alex en 2020. C'est un cas qu'on a étudié. Et très symptomatique. Et en fait, c'est une vallée... C'est un peu comme le Diwa, c'est des gens qui s'entraident déjà, il y a pas mal de liens sociaux, et c'est un milieu montagnard, donc il y a de l'entraide déjà sur place. Et on a vu que ça dépendait beaucoup des maires. Chaque localité avait sa couleur, plus ou moins d'entraide, plus ou moins de verticalité, ça dépend du caractère des gens. Et là, ici, on est à petite échelle dans le Diwa, donc ça dépend beaucoup des gens. Par contre, quand il y a une grande échelle, une énorme catastrophe, ça dépend des hiérarchies, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui arrivent, une incompréhension, des rapports de pouvoir et tout. Donc, il y a plein de problèmes. Mais là, au niveau local, je trouve qu'à Die, ça s'est plutôt bien passé, vu de l'extérieur comme ça.
Et même, j'ai un exemple qui me revient en tête, qu'on m'a relaté sur Barsac, où la mairie réfléchissait à poser un arrêt municipal pour interdire l'accès au massif, pour raisons de sécurité, qui sont assez évidentes. Mais il y a eu de la discussion avec les habitants pour dire, écoutez, ce ne serait pas très malin, parce que du coup, nous, on ne pourrait pas venir aider, notamment pour les actions de bûcheronnage, etc. Et donc, il a été décidé, communément entre les habitants et la municipalité, de ne pas poser cet arrêt municipal d'interdiction d'accès. Et ça aussi, ça permet d'aller plus loin, et c'est dans ces moments-là où on voit qu'en fait il faut qu'on travaille ensemble, et il faut que les autorités et les habitants puissent être ensemble avec le même objectif face aux besoins du moment en pleine crise.
Et ça se prépare, c'est pas au moment de la crise que ça se fait, tu vois. Il y a un peu d'auto-organisation, d'impro, et c'est pas mal, mais globalement il faut le préparer.
Suite à ces incendies, il y a eu un peu ce sentiment de sidération de cette situation. Est-ce que maintenant, nous approchons de septembre, est-ce qu'il est temps peut-être de se mettre à en parler, réfléchir ensemble ?
Mais justement, c'est pour ça qu'on propose cet atelier le dimanche 6 septembre. L'idée, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de faire ressortir comment on s'est senti, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu faire, les frustrations ou les fiertés. Se rendre compte de ce qui a été possible de faire, ce qui n'a pas été possible de faire, et potentiellement d'avoir laissé quelques semaines, les semaines de l'été où il y avait moins de disponibilité, puisque finalement il y avait quand même des gens qui partaient en vacances. Donc ça a permis peut-être de faire retomber un peu cette tension, cette urgence, et je pense que ça en rendra les échanges que plus fructueux finalement. Puisqu'on sera un peu moins à fleur de peau. Et je dis « on » parce que moi, je participerai aussi en tant qu'habitante, dans le sens que j'ai mon vécu, et on a tous notre façon d'avoir intervenu ou pas. Donc, en tout cas, à titre personnel, je sais que ça me fait du bien d'avoir pris un peu de temps, de m'être un petit peu éloignée, entre guillemets, de cette actualité, pour pouvoir revenir dessus. On est moins à fleur de peau. Et on va pouvoir avoir peut-être des échanges plus sains, plus clairs.
Et je signale que Marie a été très active pendant les incendies, a géré aussi les groupes, toujours, le groupe Signal, les groupes de communication, etc. T'étais au cœur de la catastrophe.
Quoi. D'une certaine façon, en tout cas sur la communication, la fluidification de la communication entre les habitants, c'est vrai que c'est parti d'un besoin personnel. On était deux, trois personnes qui font partie du réseau des tempêtes qui se disaient « Mais alors attends, où est-ce que t'as entendu ça ? Où est-ce que t'as trouvé cette info ? Sur quel canal ? Sur quel groupe ? Quelle personne ?» Et puis on s'est dit qu'on n'avait qu'à faire un canal commun entre nous où on partageait un peu tout ce dont on entendait parler. Et puis on s'est dit c'est dommage de le garder pour nous. On ne doit sûrement pas être les seuls à en avoir besoin. Et donc on a commencé à partager le lien de ce groupe dans les différents canaux Signal, WhatsApp qu'on avait chacune dans nos téléphones. Et on a même commencé à structurer ces canaux. On a créé des canaux par thématique. Donc, il y avait celle sur le soin, la santé. Donc, c'était autant sur les aspects soutien psychologique que accueil des animaux, tout ça. On avait un canal sur l'action directe, si on voulait aller aider à déblayer des morceaux de bois. Enfin, voilà, il y avait plein de... Où aller aider, faire la cuisine, etc. Donc, il y a eu plusieurs thématiques comme ça qui ont un peu... qui ont participé à minimiser le chaos dans l'envie d'aider, structurer les échanges. Et ce qui a été très intéressant, c'est de voir donc les gens au fur et à mesure se sont sortis de ces groupes parce qu'ils voyaient plus leur utilité. Mais avec le feu à Bellegarde et le massif du Claps, les gens se sont remis à revenir. Ils ont réintégré les groupes pour pouvoir reparticiper. Et donc du coup, l'outil était déjà là. Et donc ça, c'était aussi un bel apprentissage de voir que les gens, du coup, l'avaient en tête et se l'appropriaient en se saisissant de ça pour le deuxième incendie, même si je dois avouer que ça a été quand même pas mal géré par la communauté de communes qui ont centralisé beaucoup de la gestion logistique. Et donc, depuis 10, ces groupes ont quand même été assez identifiés à 10. Et depuis 10, ben, c'était plutôt des gens de 10 qui voulaient voir s'ils pouvaient aider à Luc, Bellegarde, etc. Mais il devait y avoir d'autres moyens de communication qui se sont créés ou qui étaient déjà existants et qui ont été suffisants pour les besoins.
Pablo, par rapport à cet incendie, est-ce que vous avez pu observer aussi... ce que l'habitant a pu ressentir dans cette destruction de son paysage, est-ce qu'il y a eu un sentiment ou qui se soit révélé ou...
Moi, j'ai moins vécu la chose comme Marie après dans l'organisation, mais j'étais là au début quand il y a eu les odeurs de fumée et quand le feu venait et j'ai senti la sidération déjà en moi. J'ai senti comment il y a une sorte de panique sourde, très bizarre. J'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à savoir quoi faire. Et ouais, le sentiment de sidération dans les rues de Die. Et après, après je suis parti. Donc j'étais en excursion avec mon fils, je suis parti en vacances. Et ça a fait du bien, ça m'a débloqué. Donc ouais, sentiment de sidération. Moi, je voulais rajouter par rapport à ce que disait Marie, on peut retenir, en fait, il y a 5 choses à faire qui pourraient être importantes là. C'est déjà qu'il y a des gens, ils en ont gros sur la patate, il faut les entendre. Vraiment, il faut accueillir ça, mais en groupe, et ça soude. Parce que moi, en interviewant des gens dans la Roya, 4 ans après la tempête Alex, ils avaient les larmes aux yeux encore. Donc, c'est quelque chose qui est très prégnant, tu vois. L'autre chose, c'est de célébrer. C'est pas voir que le négatif, mais de voir tout ce qu'on a fait de bien, tous les liens qui ont été créés, etc., et faire des rituels. Et ça, ça participe de la création de la communauté, et du lien social. La troisième, c'est... plutôt le côté intellectuel, qu'est-ce qu'on a appris, comment on peut améliorer les choses avec les élus, avec les pompiers, comment on peut mettre en place des procédures, etc. Et la quatrième, c'est de garder le lien, même s'il n'y a plus de catastrophe. Et c'est là qu'il y a un vrai enjeu de bien s'entendre malgré nos valeurs morales différentes, malgré les tensions, etc. Donc c'est là qu'il faut apprendre à jouer. Pour moi, la clé, c'est de jouer. On est des mammifères, des primates, et on apprend par le jeu. Et puis la cinquième, je dirais, qui est aussi invisible, mais qu'on a pu mettre en évidence, c'est de partager ce qu'on a appris dans d'autres catastrophes. Et je sais qu'à la Roya, quand il y a eu beaucoup de, comment dire, des grimpeurs qui ont eu beaucoup d'expérience pendant cette catastrophe, qui sont allés après aider en Allemagne pour les inondations, ils sont allés aider à Valence en Espagne, etc. Et nous, on a acquis à Die une compétence qu'on peut faire partager, qu'on peut partager par n'importe quel moyen pour le dos de territoire, en fait. Et ça crée du lien entre les territoires et c'est fondamental parce que ça crée un nous plus large.
Et d'ailleurs, on est en contact avec des initiatives comme l'École du Feu à Marseille, qui est le résultat d'une organisation post-crise, post-incendie du coup. L'idée étant de créer des ponts entre eux qui ont cette expérience-là, ou la région des Corbières aussi, qui a brûlé l'année dernière, et pour pouvoir apprendre de ce qu'ils ont pu créer, tisser comme lien post-crise et partager du coup avec ces régions qui ont récemment connu les incendies. Là, on parle d'incendie puisque c'est le sujet de Die, et donc partager avec le Diwa, avec peut-être même les gens de l'Argentière dans les Hautes-Alpes, avec même dans le Var qui plus récemment a brûlé, la Gironde, Fontainebleau, etc. Et donc arriver à faire ce partage transversal sur toutes avec les régions concernées.
Je pense qu'on a fait un tour, hein. On pourra en débattre encore plus longtemps, mais le temps nous étant imparti. En tout cas, je vous remercie Marie Mélinon et Pablo Servigne d'être venus ici pour nous annoncer donc cette réunion Récolter la tempête. C'est un atelier, hein, et ça aura lieu donc à la salle communautaire de l'espace social et culturel du Diwa le 6 septembre, un dimanche, donc de 10 à 13 heures. L'entrée est tout à fait libre.
Oui. Effectivement. Ouvert à tout le monde.
Bienvenue.
Et gratuit. Bienvenue tout le monde.
Bonne fin de journée.
Merci. Merci Radio Diwa. Salut.